Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
C'est parti pour le numéro 593 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, Sex Story. On en parlera, c'est la première histoire de la sexualité en bande dessinée et il y a un rapport avec le vin, évidemment. L'appellation Faugère, les vins de printemps, le concept Wine O'Clock, le château Suaux en Côte de Bordeaux, le Riesling allemand, il est délicieux. Et comme chaque week-end, toute actualité mondiale, les vins et spiritueux, en compagnie de notre anglais chouchou, David Cobol, qui lit un excellent bouquin, Manuel Perrondet et Philippe Forbach. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Manuel, dans l'agenda du vin, on commence par Bordeaux.
Tout à fait. Dans l'actualité du vin, cette semaine, nous aurons, pour les amateurs de Bordeaux, une ouverture des caves de Saint-Émilion, Lussac-Saint-Émilion et Pisguin-Saint-Émilion, puisque les châteaux ouvrent leurs portes. Au programme, dégustation de grands crus classés de Saint-Émilion, des visites du patrimoine et de belles surprises, comme le repas, par exemple, qui est organisé par les vignerons eux-mêmes. Alors, pour plus d'informations, Saint-Émilion avec Saint-du-6, Émilion-du-6, tourisme.com.
Allez, on quitte Bordeaux pour une autre belle région, Manuel, l'Alsace.
Une région magnifique, surtout au printemps, l'Alsace qui a Gebwiller célébrera avec une trentaine de viticultures un événement viticole intéressant. Ils feront déguster en exclusivité leur millésime de l'année, donc 2015 qui arrive. Vous pourrez découvrir plus de 220 de 10h à 18h avec les explications et conseils de chaque vigneron. Là encore, pour plus d'informations, route-du-6-20-du-6-20 au pluriel, alsace.com.
Et enfin, direction Reims, c'est une belle ville.
Une belle ville, surtout un bel événement, celui du Wine Business Club qui à Reims organise son dîner le mardi 17 mai au domaine des Crayères, au menu économie, gastronomie et grand cru, bien entendu. Pour plus d'informations, winebusinessclub.com.
Merci beaucoup, Manuel. Philippe Forbach, un commentaire sur le millésime 1967.
C'était la naissance de la télévision en couleur et c'est bien la seule raison de se satisfaire de ce millésime, parce que 67, les vins manquaient indéniablement de couleur. Sauf Ikem, dans les grands liquoreux, ou alors là, dans le Bordelais, et notamment dans le Sauternais. On a des belles réussites, et c'est une légende, Ikem 67. Dans les autres régions, c'était quand même pas terrible. Les vins étaient légers, tendres, peu colorés. Les blancs étaient d'une façon éphémère assez agréable. Les rouges n'étaient pas concentrés, donc n'ont pas tenu sur le temps. C'est un millésime un peu compliqué à ce niveau-là, en tout cas.
Donc ça, c'est offrir à sa belle-mère.
Oui. Alors, par contre, il y a plein de choses qui sont passées, indépendamment de la télévision couleur. On a vu beaucoup d'arrivées de grands artistes. Côté
alors, les femmes, people, allons-y.
Nicole Kidman, Pamela Anderson, Julia Roberts, Valérie Pécresse, Amélie Nothomb, Tina Arena, Sandrine Bonner, Carla Bruni.
On peut choisir, là, deux, trois.
Côté garçon, David Ginola, Boris Becker, Gérald de Palmas, Laurent Gérard, Clovis Cornillac, Joey Stark, David Guetta, Olivier Mine.
Et vous avez Emmanuel Brochot ou pas dans les people?
Mathieu Kassovitz. Et notre invité du jour, en plus.
Emmanuel Brochot, voilà.
Ça allait passer beaucoup, quand même.
Notre premier invité, le président du groupe Valentin, traiteur. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour.
Alors, vous étiez un 30 décembre, c'est pas de bol, ça. Vous avez jamais de cadeau pour votre anniversaire, hein.
C'est compliqué, oui.
Non, mais c'est vrai. On va se cotiser pour vous faire un cadeau, quand même, moi. Alors, vous avez un BTS agroalimentaire, et après votre service militaire dans les chasseurs alpins, votre premier job, c'était manutentionnaire dans les jus de fruits.
Eh oui. Pas loin du vin, quand même.
Ouais. Donc, il y avait un vrai début, quoi. Et après, donc en 93, vous allez reprendre Valentin Traiteur, qui était en dépôt de bilan. Alors, racontez-nous, c'était facile de trouver le financement au tout début, parce que maintenant, ça va bien, mais au tout début, en 93.
Compliqué, à 25 ans, la notoriété n'était pas encore là, les banques n'étaient pas forcément disposées à écouter un jeune qui sort de l'école.
Elles ont beaucoup changé ?
Non, je crois pas. C'est compliqué, car on n'a rien présenté, on n'a rien prouvé. Et malheureusement, quand on est jeune, personne ne fait confiance. Il faut faire confiance qu'à soi-même. Donc, c'est à force d'abnégation, de force, de volonté, de courage que j'ai réussi à reprendre cette
entreprise. Alors, au départ, il y avait quelques salariés qui vous ont suivi, plus un investisseur. Et c'est grâce à ça que vous avez réussi à prendre l'entreprise.
Oui, j'ai réussi à convaincre 22 salariés, un investisseur. Il nous a permis de lever 2 millions de francs à l'époque.
À l'époque, des francs, oui.
Pour relancer l'entreprise. Et on a redémarré en 93 avec ce petit pécule.
Mais qui était le début, quoi. Et aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires consolidé du groupe, c'est 55 millions d'euros. Les produits que vous proposez, ils sont variés, hein.
Donc, on a effectivement une famille de produits très variée sur 4 sites de production. Donc, les produits, c'est du snacking, croque-monsieur, croissant, tarte, quiche, des produits laitiers, yaourt brassé et des plats cuisinés à connotation savoyarde, gratin dauphinois, tartiflette, label rouge, crozé au Beaufort, etc., etc.
Donc vous produisez en France, on peut encore produire en France.
Tout est produit en France et essentiellement en région Rhône-Alpes. Les 4 usines sont situées dans la région Rhône-Alpes et avec essentiellement des matières d'origine France.
Alors, vous réalisez 80% de votre business avec des marques distributeurs. Et vous, vous avez réussi à nouer des vraies relations de partenariat avec la grande distribution.
Alors, même si ça a été compliqué ces derniers temps, l'actualité, vous la connaissez comme moi, mais on a réussi globalement à passer au travers des, on va dire, de ces gouttes d'eau, puisque la grande distribution nous considère plus comme des partenaires que comme des fournisseurs, et on a une relation qui est un peu moins binaire que peut-être certains de nos confrères. Donc on a un partenariat qui est assez positif en ce moment et qui va nous permettre d'avoir une croissance à deux chiffres dans les 2-3 années à venir.
Ce qui est juste remarquable. Vous avez également une marque propre, Pierre Clos ?
Oui, on a une marque propre Pierre Clos sur les produits haut de gamme du groupe qui commence à prendre forme dans la région, essentiellement région Rhône-Alpes, car une marque coûte cher, il faut du temps, de la notoriété. Donc on avance avec nos petits pas, et nos petits moyens. Mais
un potentiel réellement encore. Alors autre potentiel, hein, vous réalisez aujourd'hui à peine 10% de vos ventes à l'export, donc ça veut dire que l'international c'est un formidable relais de croissance pour votre entreprise.
Oui, c'est un vrai relais de croissance sur les années à venir. On est parti de zéro il y a 2 ans, aujourd'hui on approche les 10%, on vise les 15% en 2017, je pense que c'est notre relais de croissance de demain.
Je sais que vous écoutez chaque week-end une vidéo BFM sur 96.4 BFM Business. Quand vous êtes à Paris, le samedi à 13h et le dimanche à 16h, pour vous le vin c'est d'abord deux choses, c'est la découverte et le partage.
Pour moi, le vin, c'est effectivement un vrai moment de partage. Je ne conçois pas consommer du vin sans être entouré d'amis, d'histoires. C'est une aventure.
Vous avez 3000 bouteilles dans votre cave, ce qui est quand même pas mal du tout. Vous avez un emploi du temps de folie. Vous trouvez encore quelques minutes pour pouvoir en déguster avec modération, mais en déguster quand même.
Ben, les week-ends sont faits pour ça, les soirées entre amis aussi.
Oui, alors on m'a parlé d'ailleurs d'une soirée récente avec des thématiques de côte rôtie. Il m'a semblé avoir passé une photo quelque part.
Oui, on organise entre amis et passionnés, plus ou moins connaisseurs, mais surtout passionnés de vin, des soirées autour d'un bon mets et de bonnes bouteilles que l'on prélève dans nos caves.
Une bonne côte de bœuf, par exemple, avec une bonne bouteille.
Voilà,
quoi.
Par exemple,
paradis, quoi, avec modération. Philippe Fourbac, là, ça marche avec tout, la côte de bœuf. Hein.
Oui, et puis je vais dire le contre-dit aussi. c'est juste un vin extraordinaire.
Emmanuel Brochot, un souvenir d'une pièce de Santenay. Donc là, on quitte la vallée du Rhône pour aller en Bourgogne, acheté avec votre papa quand vous aviez 17-18 ans.
Ouais, c'est ma jeunesse. Ouais. Je suis issu de la Bourgogne, donc les vins bourguignons me touchent au cœur. Et j'ai effectivement été marqué, et le début du vin pour moi, le début d'aventure dans le vin, c'est cette fameuse pièce de Santenay.
En Santenay rouge.
Santenay rouge, oui. Donc ça devait être année 86. Le vin, année 86-87.
C'était l'émotion, quoi.
Et c'était de l'émotion. Mon palais n'était pas encore très aguerri à cette culture du vin, mais c'était vraiment l'émotion. Et je pense que c'est là où j'ai découvert
Manuel Perrondet, un petit mot sur l'appellation Santenay.
C'est une appellation qu'il faut suivre de près maintenant parce qu'elle est poussée par des jeunes viticulteurs talentueux. Je pense à Jean-Marc Vincent, des gens comme
les Musards aussi.
Les Musards, bien sûr, mais ça c'est plus historique. Et surtout, c'est une appellation qui prend le relais qualitatif du reste de la Côte de Beaune, qui malheureusement au niveau des prix est en train de nous échapper. Mais Santenay, du côté des Maranges, un spot magnifique pour certains blancs. Et puis côté Chassagne, il y a des terres particulièrement incroyable pour les rouges.
Et ça peut attendre ou pas,
Manuel? Les Côtes d'Avannes, oui, ça vieillit pas mal, hein, surtout dans les belles années. Ça vieillit au moins 10-12 ans sans forcer, et peut-être plus quand on est dans un gros format.
Emmanuel Brochot, alors côté cuisine, on m'a dit que vous êtes des champions du monde des rognons de veau sauf moutarde.
Oui, c'est quelque chose que je fais bien. Je fais pas que ça, mais je fais ça.
Ah, qu'est-ce qu'on voit, Philippe Forbois? Qu'est-ce qu'on peut déguster avec les magnifiques rognons de veau sauce moutarde d'Emmanuel?
Le Santenay pour être bienvenu, que ça soit en rouge ou en blanc d'ailleurs, parce que
pas trop de moutarde tout de même.
Oui, c'est ça. Voilà.
Enfin, attention, si c'est un peu moutardé, le blanc finalement va mieux. Et si on est un peu plus dans la suavité, un peu plus dans le soft, le rouge peut correspondre.
Vous aimez
plutôt les bourgognes?
Vous aimez les rognons, David?
Moi, j'aime beaucoup, oui.
Pourquoi
cette question?
Mais pourquoi?
Parce que les Anglais, j'aime tout, moi. Les Anglais sont...
Ah non, mais moi, je ne suis pas un Anglais très friand. Typique. Hein.
Vous avez vécu plus de temps en Angleterre.
On mange beaucoup d'abats en Angleterre. Ouais.
Bon, un conseil pour les rognons, vous les voyez comment, vous?
Hein? Rosé.
Rosé, directement encore. Alors, vous, Emmanuel Brochot, vous êtes plutôt cognac, armagnac, chartreuse ou tisane?
Ouais, plutôt chartreuse.
Chartreuse,
ben oui.
Monsieur pourrait être sommelier.
Mais monsieur pourrait être sommelier, c'est
la chartreuse des mofs, notamment.
Qu'est-ce que c'est que la chartreuse, Philippe Aubrac?
C'est une grande liqueur qui a été créée par les moines du massif de la Chartreuse. du côté de Voiron et qui ont immigré de temps en temps en Espagne, à Tarragone par exemple, ou encore à Marseille, où ils ont produit. C'est une liqueur à base de plantes. Il y a 132 plantes qui rentrent dans la composition, qui est secrète. Donc ne me demandez pas la recette, personne ne la sait. Elle est dans un coffre au secret. Ouais. Je crois qu'ils sont deux seulement à pouvoir maîtriser la recette.
Dont Benoît, frère Jean-Jacques. Oui.
Exactement, de manière à ce que s'il y en a un qui est disparu ou qui a un problème, l'autre puisse assurer la survie de la société. C'est juste extraordinaire. C'est une liqueur de légende historique qui a été redécouvert récemment, finalement, ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, les vieilles bouteilles de Chartreuse, notamment issues de la période de Tarragone, s'arrachent à des prix d'or sur le marché des ventes aux enchères.
C'est sympa, ça. Pour terminer, Manuel Brochot, côté Bordeaux, vous avez un petit fait pour l'appellation Pessac-Léognan.
Oui, tout à fait. Oui, c'est un vin que je connais un petit peu pour avoir séjourné à Caudalie. Donc, le Smith au Lafitte, c'est un vin que j'apprécie particulièrement.
Bah, franchement, il y a pire.
Mais il y a pire, oui. Donc...
Et vous avez apprécié le séjour à Caudalie, là, dans les grandes barriques, là, c'est sympa, quoi.
C'est la visite de la cave est exceptionnelle, enfin. La réception est magnifique.
L'architecture du château,
c'est somptueux. David Cobold.
À propos de Caudalie, ce n'est pas les Catiards qui ont inventé la vinothérapie, parce que j'ai trouvé une citation dans Gargantua de François Rabelais où il conseille aux gens qui ont beaucoup marché ou qui ont mal aux jambes de se faire frotter avec du bon chenin. C'est la première mention du cépage chenin, ça se trouve dans Gargantua, mais à titre de vinothérapie, il ne parle pas de la boisson. Hein.
Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Manuel Brochot, pour 2016-2017, que le business continue à se développer? Vous pensez qu'il y aura une croissance encore à deux chiffres pour le groupe? Parce que ça fait quand même beaucoup de chiffres, hein, même si vous êtes très bon.
Ben, pour l'instant, les chiffres à fin mars 2016 sont dans ce sens-là. Donc je pense que l'année va se terminer sur une croissance entre 9 et 11%. Et il n'y a pas de raison que 2017 ne soit pas sur la même lignée au vu des rapprochements commerciaux qu'on a avec nos clients.
Bon, super. Vous aurez metté un grand magnum de Pessac-Léognan à boire avec modération. Merci
avec
beaucoup, Emmanuel Brochot, et bon vent pour votre belle entreprise. Merci. Valentin Traiteur, nous marquons une première pause. Ensuite, retour chez Nicolas à Paris pour parler de Sex Story, et oui, de l'appellation Faugère.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, un habitué de notre plateau, Philippe Brenneau. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Alors au départ, vous êtes sérieux, vous êtes psychiatre, anthropologue.
Pourquoi au départ, je suis
sérieux? Et sexologue. Et vous avez écrit de nombreux bouquins, notamment Les femmes, la sexualité et l'amour. Et aujourd'hui, vous publiez une BD avec Laetitia, Sex Story. Et on apprend beaucoup de choses, notamment que Cléopâtre a inventé le premier vibromasseur.
Ah, ça c'est formidable. C'est Cléopâtre est l'inventeur du vibromasseur. Alors Cléopâtre se faisait confectionner des cornets de papyrus dans lesquels elle faisait, bon, on mettait des abeilles, on fermait le tout et elle se le mettait entre les jambes, entre les cuisses. Et c'était un vibromasseur, il paraît, excellent.
Et donc dans ce livre,
pas que ça s'ouvre.
Alors justement,
voilà tout de suite. Et tu vois, en fait, l'intérêt de notre binôme.
Alors justement, Laetitia qui est parmi nous. Donc ça, vous, Laetitia, ouais. Dans le bouquin, il y en a un qui a pensé, et vous avez dessiné.
C'est ça.
Et vous avez dessiné sur 200 pages.
Oui.
Sur la sexualité.
Oui, oui.
Vous aimez beaucoup le sexe, non?
Bah oui.
Vous êtes rencontrés comment tous les deux?
Mais parce que
c'est une soirée un peu spéciale.
Alors si je vais le dire, c'est que cette histoire de la sexualité, qui est la première histoire de la sexualité en bande dessinée, nous a occupés pendant un an. Mais je ne me voyais pas la faire seule, c'est-à-dire un homme racontant cette histoire est moins crédible. Et il me fallait une femme. Et comme je ne sais pas dessiner, Laetitia est venue pour dessiner.
C'était la bonne personne.
Et
quoi.
Par contre, elle est connue pour des très beaux albums.
Qu'est-ce que vous avez fait, Laetitia, à part le sexe?
Le monde merveilleux des vieux.
Oh, ah oui, il y a une cohérence.
On va les rajeunir avec ce livre.
Le péril vieux, fenêtre sur cour d'école et la question de Dieu avec Pat Perna il y a quelques années.
D'accord, et c'est votre métier?
Oui.
Donc vous êtes 100%. Et il y a un prochain bouquin qui est en préparation, une prochaine BD ou pas?
Oui, mais j'ai pas encore commencé, donc
ça sera à suivre, quoi.
Sinon, je travaille pour la revue Arg et ça c'est le petit dernier, c'est Sex Story, mais qui n'est même pas encore sorti, qui arrive tout juste.
C'est de l'avant-première en cette fin du mois d'avril. Alors 200 pages et le premier chapitre remonte au début du sexe dans la forêt de l'Afrique de l'Est.
Oui, parce que l'histoire de la sexualité, ça commence pas aujourd'hui. L'histoire de la sexualité, ça part par nos origines. Aux origines, on est très proche des grands singes de l'Afrique. Et on va sortir de la forêt et avec une sexualité qui n'a rien à voir avec la leur. Et ce qu'on va expliquer, c'est cette espèce de transition. Tiens, par exemple, les hommes. On a une formidable érection. C'est les femmes qui le disent. Mais notre formidable érection, elle est Moi, je dirais qu'elle a une valeur humaine parce que chez les singes, cette érection, elle est tenue par un petit os qui permet la rigidité. Eh bien, nous avons perdu l'os et nous avons gagné en rigidité.
Et c'est encore. Et c'est naturel, ça. Et c'est sans bien gras, quoi. Alors, on fait un rapport peut-être avec le, toujours avec modération, hein, avec le vin. Est-ce que le vin est présent dans toutes les étapes depuis la forêt jusqu'aux années aujourd'hui?
Alors, le vin est présent dans toutes les étapes. On l'a pas forcément représenté partout. Il est très représenté dans les fêtes de l'Antiquité, que ce soit les Bacchanales, les Lupercales, que ce soit à Rome, que ce soit à Babylone, avec Ishtar, la déesse de l'amour, que ce soit en Grèce, que ce soit à Rome. Eh bien, effectivement, le vin accompagne toujours l'amour. C'est-à-dire que le vin est d'abord le meilleur des inhibiteurs. C'est celui qui va
faciliter... Ça, c'est pour commencer à draguer, ça que vous voulez dire, quoi.
Ouais, c'est pour rentrer en matière.
Oui. Alors, par contre, faut pas en abuser. Exactement ce qu'on dit, nous, toujours avec modération.
Ah, c'est ce que vous faites tous les jours.
Voilà. Donc, il y a plusieurs points de contact, si je puis dire.
Alors, il y a des points de contact. Et puis, moi, je crois que ce livre a un grand intérêt parce que, bon, ma connaissance de l'histoire de la sexualité a rencontré la sensibilité de Laetitia qui est assez extraordinaire. Alors, je me permets de le dire parce qu'elle est en face de moi, que c'est la première interview.
Laetitia dit tout. Vous l'avez pris pour un dingue la première fois ou pas, là?
Ah oui, oui, bien sûr. Oui.
Et là, ça va mieux?
Et moi, je l'ai pris pour une folle après parce que j'ai bien compris comment elle fait.
Donc il y a un vrai duo, c'est ça, Philippe?
Ouais. Je crois qu'on a passé une année à travailler. J'ai jamais travaillé autant pour un livre, alors que j'ai écrit mal de livres. Et toi non plus.
Et il y en a un prochain, un tome 2, peut-être, la
suite. Il y a peut-être... Alors, la suite, c'est-à-dire que c'est le courant occidental, c'est-à-dire que ça commence à l'origine de l'humanité. Ça va même vers deux pages de fiction en 2200, et on va... Ceux qui seront intéressés essaieront de voir qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui va se passer pour notre sexualité dans un siècle. Mais à travers toute cette histoire, eh bien, on retrace le courant, je vais dire, judéo-chrétien, et puis il y a une possibilité, effectivement, de toutes les sexualités asiatiques qui sont riches, de l'islam, il y a des sexualités dans des pays de la tradition, et il y a des très belles choses. Et le dessin, encore une fois, je dis, de Laetitia, c'est une rencontre, moi je crois, de deux sensibilités. Tout ce qui est écrit en matière de sexualité, j'aurais pas pu l'écrire de la même façon dans un livre.
Il est illustré à merveille.
D'abord, il y a des mots qui passent pas et que je peux pas dire à l'antenne. Et tout simplement, ton trait, ton crayon, ton pinceau, parce que c'est tout fait au pinceau, alors qu'on croit que c'est un trait, permet l'impertinence du dessin d'humour, ce que on ne sait pas trop. Dire.
Ouais, c'est vrai. Avec les dessins, ça passe beaucoup mieux. On réagit, tiens, David Cobol, Philippe Orbach, Manuel Perrondet, vous en pensez quoi? Philippe Orbach, vous avez l'air passionné, Philippe.
ça l'est. Alors, c'est vrai que le vin est assez présent aussi dans le livre. Il y a notamment la naissance de Priap, par exemple, qui est le fruit de l'union entre Aphrodite, qui est même la déesse de l'amour, de la beauté, etc., avec Dionysos, qui est même le dieu du vin. Donc, ils ont un enfant et elle est tombée enceinte. Alors, effectivement, Héra était là, jalouse, elle lui donnait jeter un sort, mais le sort, c'était qu'il était difforme. Mais pas difforme de n'importe où, quoi. Il avait un sexe surdimensionné. Ce qui l'a fait qu'on l'a un peu rejeté, abandonné, mais qu'on l'a récupéré en héros un jour, parce que finalement, il est devenu un peu le dieu du sexe de l'époque. Quoi.
David Cobol, qui est le dieu du sexe actuel.
j'ai parlé la semaine dernière de ma visite à Lisbonne, brièvement, et j'ai vu pendant cette visite, dans la formidable collection Gulbenkian, qui a une collection absolument extraordinaire de toutes les époques, il y a un portrait de Bacchus, très ambigu, où on voit Bacchus avec des seins. C'est-à-dire qu'il est à la fois homme et femme. Et je trouve que ça, c'était intéressant sur l'histoire, l'ambiguïté de Bacchus.
Oui. Pardon ?
L'ambiguïté de Bacchus, ça vous parle ?
Oui, ça me parle, mais c'est pas quelque chose qu'on a représenté. Tu l'as représenté un petit peu. C'est vrai que tu l'as fait avec ses formes très particulières, mais on n'a pas insisté là-dessus.
Je me suis juste inspirée du Bacchus du Caravage. Je ne l'ai pas représenté en androgyne.
En androgyne, quoi.
Là, il était clairement androgyne.
Manuel Perrondet, vous en pensez quoi de ce livre, cette BD?
Je ne l'ai vraiment pas encore parcouru, mais il a l'air très intéressant. D'abord, la couleur est magnifique. Et puis surtout, ça m'intrigue.
Donc, quand même, un BD sextoy et sextory.
C'est vrai, mais il va falloir que j'aille un petit peu plus en détail. Écoutez,
bon, en tout cas, bravo à tous les deux. Bravo Philippe, bravo Laetitia. Donc, ça s'appelle Sextory, Philippe Bréneau et puis Laetitia aux éditions Les Arènes, 24,90, pardon. Dans toutes les bonnes librairies, c'est au rayon bande dessinée, je suppose, quoi.
Ah, ben oui.
Bah, minimum, quoi.
Oui, c'est la première histoire de la sexualité en bande dessinée.
Ben oui. Et une Indie BFM accueille maintenant celui qui devrait écrire Wine Story en BD, là, Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde. pour une découverte de l'appellation Faugère. Elles sont jolies, les femmes de bas aussi. Hein.
Je vais parler de choses qui sont réservées aux plus de 18 ans, donc voilà. Et je vous amène faire un tour dans la région du Languedoc, et plus précisément dans le département de l'Hérault, avec cette appellation Faugère, qui est une appellation historique, et qui a la chance, ou en tout cas le talent de son terroir, de schiste particulier, avec Saint-Chinian, de partager cette fameuse route des schistes, et d'être la plus ancienne appellation, finalement, de la région, avoir obtenu le label appellation d'origine contrôlée, puisque c'est en 1982. C'est les deux premières qui ont été gradées ou graduées dans ce sens. Depuis, un certain nombre, entre le Languedoc et le Roussillon, sont devenus quasiment, de toute façon, il n'y a plus que des AOP ou des AOC. Et puis, bien sûr, ensuite, une grande pays de production de 20 pays qu'on appelle maintenant les IGP. Cette appellation Faugère est une appellation à la fois ancienne et en même temps un peu moins ancienne dans l'histoire que les autres, parce qu'elle n'est pas en bord de mer. Et donc, comme toujours, le vignoble s'est plutôt développé par des proximités de la mer qui faisaient qu'on arrivait à la fois à produire et à commercer. Alors là, on est à l'intérieur des terres, donc ça s'est développé un peu plus tardivement, un peu comme Saint-Chinian, mais légèrement après. Et la région a été célèbre pendant très longtemps, non pas seulement pour son vin, même s'il existait, mais pour son eau de vie, l'eau de vie de production d'eau de vie de Faugère. Et d'ailleurs, pour produire de l'eau de vie de Faugère, il fallait d'abord une base de raisins blancs, et c'est la raison pour laquelle on avait plutôt des raisins blancs, puisque la fine de Faugère, c'est-à-dire le vin, la distillée issue du vin et non pas du mar, était à base de terré, de carignan blanc ou de clairette, qui sont des cépages qui aujourd'hui sont un peu anecdotiques par rapport aux autres, puisque l'essentiel de la production est en rouge et en rosé, et que l'on trouve plutôt des grenaches, des syrahs, des vieux carignans et des plants qui donnent des vins qui ont une certaine densité. Le terroir de schiste apporte un style particulier à ces vins qui sont assez ciselés finalement. Le schiste, c'est une pierre qui est extrêmement désagrégeuse. En tout cas, quand on le prend dans la main comme ça, c'est très friable. Donc les racines, on peut l'imaginer, passent facilement à l'intérieur. Ça draine aussi bien, donc il n'y a pas de problème de drainage d'eau, donc de stagnation d'eau. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant pour la viticulture. C'est une belle région en plus. Donc il y a de très jolis paysages. Il y a plein de vignerons qui font des jolis vins de caractère.
Découvrir les vins sur place, c'est-à-dire qu'on peut visiter aussi.
Oui, oui, tout à fait. Cette fameuse route des schistes est une route des vins, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, relativement ancienne. Elle permet non seulement de faire de très belles balades, parce que c'est vraiment très beau, et bien entendu de parcourir des vignobles qui sont très accueillants. Les montagnes, c'est assez vallonné. On monte un peu en altitude, donc en plus on a un point de vue ensuite sur la mer, sur les massifs environnants qui est très belle. Donc on peut bénéficier effectivement de très jolis endroits. Il y a 7 villages qui ont droit à l'appellation, et chacun de ces villages est relié par une route et par des chemins qui permettent de mieux appréhender effectivement les terroirs. Les vins, donc les rouges, sont plutôt des vins qui ont une certaine densité. Alors ça dépend des millésimes et des vignerons et des cuvées, mais globalement, avec un joli potentiel de garde, il n'est pas inintéressant de goûter une dizaine d'années après la récolte les rouges qui commencent à avoir une jolie maturité. Les rosés sont à boire un peu plus rapidement comme souvent, mais certains peuvent également gagner à vieillir pendant 3 ou 4 ans sans problème.
Les rosés.
Exactement. Oui. Bon, ça toujours tendance à penser que les rosés, ça se boit dans l'année. C'est vrai que, notamment en Provence, c'est ce que l'on prône. Mais certains, même en Provence, je pense à Bordeaux, par exemple, peuvent gagner à vieillir. On a, la plupart des vins sont autour d'une dizaine d'euros.
Une dizaine d'euros, quoi. Et quelques vignerons, peut-être, à ne pas louper.
Intéressant. Alors, le moulin de Siffre, le domaine Léon Barral, le château des Estanies, le Clos Fontine, le château Anglade, Jean-Marie Alquier, le Mas des Capitelles, l'abbaye Sylva Plana. Il y a même nos amis des vins de Vienne qui auront Gaillard-Villard qui ont aussi un très joli domaine dans cette appellation. Et le domaine Valambelle qui produit aussi un très joli vin du côté de Lorins.
Merci beaucoup Philippe Arbrac. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour parler des vins de saison avec Emmanuel Perrandet et du concept Wine O'Clock.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas Paris pour cette émission en public avec le Vino Quiz et puis Emmanuel Perrandet, le meilleur sommelier de France.
pense. Bonjour Alain. Alors, je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Alors, la semaine dernière, la question était où se situe le vignoble d'Hokkaido ? Il y avait réponse A au Japon, réponse B en Chine ou réponse C à Singapour.
Et la bonne réponse ?
C'est bien sûr la réponse A au Japon.
Alors cette semaine, c'est un peu compliqué comme question là, Manu.
Ça se complexifie, mais bon, non, ceux qui écoutent bien l'émission devraient trouver quand même. Le terroir de l'appellation Faugère est homogène, mais de quoi est-il constitué ? Vous avez trois réponses. Réponse A, galets roulés. Réponse B, marne argileuse. Réponse C, schiste. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeu.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Manuel, on va parler de vos vins de printemps. Mais alors juste avant, un petit mot, parce que vous êtes effectivement meilleur sommelier de France, mais également cofondateur de l'entreprise Chef d'œuvre. C'est quoi exactement ?
Chef d'œuvre est un club d'amateurs et d'acheteurs de vins que j'ai créé il y a 3 ans. Au départ avec 40, pour 40 personnes, maintenant les 40 amis sont devenus 500.
500
c'est
membres.
Une belle aventure entrepreneuriale. Voilà. On lance un nouveau service là, qui s'adresse à ceux qui veulent transmettre la passion du vin à leurs enfants, qui s'appelle Shed of Kids. Le but, c'est de créer un compte pour son enfant, de lui acheter des vins en lui laissant un message dans un livre de cave, une trace dans l'histoire en somme. Moi, je m'occupe de l'accompagnement œnologique et à sa majorité, votre enfant récupérera entre guillemets sa cave
c'est
et surtout
top.
Les traces des personnes qui lui ont laissé.
Voilà. Bon, il y a un site internet sur Chef d'œuvre pour prendre enseignement sur...
Chefdoeuvre.fr, C-H-A-I-S.
Alors, ces vins de saison, Manuel, vous en avez à combien ? Qu'est-ce que vous nous conseillez alors ?
Écoutez, quand on est le 23 avril comme ça et qu'il fait beau, on a forcément envie de changer un petit peu de style. C'est vrai que quand on sort dans la saison hivernale, on a envie de printemps, on a envie de fraîcheur et surtout de vins un petit peu plus agrumés, plus en relief. Alors bon, pendant la saison des asperges, c'est clair que la résonance pour les sommeliers est bien sûr là quand on parle de grands vins aromatiques. Et bon, c'est vrai que les grands muscats, par exemple, les muscats d'Alsace servis assez frais en terrasse, ça réjouit toujours les papilles dans leur côté aromatique, raisin frais, bergamote, agrumes. Je suis de retour d'Alsace là dans le vignoble, donc je peux vous conseiller les cuvées d'André Kinsler, de Domaine Weinbar, qui sont absolument magnifiques. Pour ceux qui n'ont jamais essayé le test de belles asperges en entrée avec.
Je crois, Emmanuel, que les asperges ça marchait avec rien.
Oui, ça c'est un vieux. C'est pour ceux qui.
Oui, c'est pour les vieux. Dites-le.
C'est pour les vieux, voilà. J'assume. Ceux qui ont essayé grand. Quand le muscat est grand et que les asperges sont très bien cuisinées, ça marche très fort. Croyez-moi.
D'accord.
Non, mais c'était à l'époque où on buvait que du rouge, donc c'était
vrai.
Un peu compliqué.
Oui, c'est vrai. Alors l'autre piste évidemment, c'est quand on parle de vin aromatique et printanier, c'est pour moi clairement la signature du Vionnier dans la vallée du Rhône. Condrieu bien sûr, là on voit arriver sur le marché les 2014 magnifiques qui seront un millésime très équilibré pour le Vionnier.
Vous le conseillez d'attendre en 2014 en Vionnier ou pas?
Pas forcément, puisque les Vionniers, certains Vionniers en tout cas de Condrieu sont très spontanés et très appréciables, surtout dans les 2-3 premières années, donc il faut en profiter. Et je pense là au 2014 d'un talent qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Stéphane Augier, qui signe des Condrieu 2014 Comte de Malval absolument splendide, qui ont encore une fois sur des asperges sous smoking marcheront également très fort.
Comme des asperges tout le temps, vous.
Ouais, mais je me dis, voilà, c'est la saison, il faut en profiter. Alors évidemment, quand on parle vin printanier, on pense aussi à des rouges croquants. C'est là qu'on sort un petit peu des vins un petit peu plus structurés pour revenir à des vins de fraîcheur. J'ai fait un petit tour dans le sud de la Bourgogne, là, et j'ai découvert chez les Brett Brothers deux talentueux vignerons de domaine de la Souffrandière, un Morgon à tomber par terre, un Morgon Les Charmes 2014, qui est bien sûr une lecture du Gamay très spontanée et fraîche, qui transpire un petit peu la griotte croquante comme ça, les nuances florales et surtout des tanins très souples et très frais. C'est le genre de vin qui, à 13 degrés, à 2 autour de la bouteille, fait à peu près 5 minutes, tellement...
À 200 autour de la bouteille.
À 200 autour de la bouteille.
Pas de blague, avec modération toujours.
Bien sûr, dans la veine de ce Morgon, je ne
comment pourrais... ça peut coûter à peu près une ordre de prix?
Alors, chez un caviste, un Morgon de ce type là, c'est un cru, ça fait partie des cuvées assez haut de gamme, c'est environ 18 euros pour
d'accord.
un particulier. Ensuite, un dernier coup de cœur, je vous dirais que le Salon des Vins de Loire a été pour moi un moyen de découvrir aussi ce que 2015 a produit. Évidemment, sur les rouges dans la Loire, ça a produit des très grands Cabernet Franc, donc on aura l'occasion de les découvrir. Et pour ceux qui sont déjà en bouteille, je ne saurais que vous conseiller de découvrir les 2015 de Thierry Germain, qui a produit une petite cuvée de semur champigny très abordable, autour de 12 euros pour un particulier. Un semur champigny dont on se rappellera certainement, puisque la maturité de ce millésime est absolument exceptionnelle sur les rouges, et elle participera bien sûr à la concentration naturelle de ces jus qui enchantent par les notes de cassis, de touche florale, légèrement végétale également, puisque c'est une des signatures du Cabernet Franc. C'est en tout cas un de mes très gros coups de cœur cette année au Salon des Vins de Loire.
Très bien. David Cobalt, si vous avez un petit coup de cœur pour le vin de printemps, Manuel vient de citer quelques vins en présentant, alors indépendamment de côté asperge, hein. des vins de saison et qui étaient en blanc et en rouge.
Alors peut-être blanc et pourquoi pas aller du côté de Muscadet et tenter une fois de plus de découvrir la richesse un peu insoupçonnée et inconnue de cette appellation, qui a été assez maltraitée, il faut bien le dire, avec des cuvées qui ont un peu d'âge, donc qui sont à la fois frais et tendres. Et ça, c'est une alliance qui n'est pas toujours facile à trouver dans les vins. C'est-à-dire, soit le vin est très vif, soit il est plus ample, plus riche comme un grand cru. Mais les Muscadets qui ont vieilli 6, 7, 7 ans...
Et on peut en trouver, David, sur le marché.
Et oui, et il y a des choses magnifiques et ça vaut pas cher, ça vaut entre 8 et 15, 16 euros.
C'est un vrai bon plan, quoi.
C'est un vrai bon plan, oui.
Philippe Forbach, si votre vin de printemps
Mon vin de printemps, plutôt Pinot Noir d'ailleurs, plutôt que Gamay, c'est vrai que ça fonctionne bien aussi. Le domaine Mouton, par exemple, à Givry, j'ai goûté un premier cru qui était juste gourmand et croquant à souhait, la framboise à l'état pur, comme ça, comme on l'aime, quoi.
Mais pareil, c'est au niveau du prix, David parlait des grands muscadets, pas très chers. Là, Givry, on est sur quoi?
Oui,
sur
c'est plutôt entre 15 et 20 euros quand même, la bouteille.
Entre 15 et 20 euros, quoi. Donc là, on se régale. Merci, messieurs. Merci, Manuel. Vous connaissez le concept de Manuel Wine O'Clock ou pas?
Pas encore.
Bon, on en parle avec un autre Emmanuel, mais il n'y a que des ça aujourd'hui. Merci. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
À vous, au départ, vous êtes plutôt whisky, hein?
Oui, complètement.
Alors racontez-nous votre histoire de whisky, là.
Ah, disons que moi, on est une équipe de 3 personnes. Hein. On vient des enchères, du monde des enchères. On vient d'une grande maison internationale et on a un peu tous nos domaines de prédilection. Et c'est vrai que moi, je suis tombé amoureux de l'Écosse. J'en ai fait le tour plusieurs fois et fatalement...
Vous adorez l'Écosse?
Oui.
Est-ce que vous adorez les Écossaises?
Aussi. Faut dire ce qu'il y a.
Il y a une petite hésitation.
Non, mais j'ai une petite anecdote. La première fois que je suis parti en Écosse, on a visité Edimbourg avec un ami et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait que des femmes dans la rue. C'était juste incroyable. On était au paradis. Il s'avérait que c'était jour de match. Donc tout le monde était au stade.
Donc, faut pas se tromper, quoi. Et donc là, vous aimez le whisky. Vous avez, acquis une connaissance sur le whisky, c'est ça?
Exactement. J'explore. On va rester modeste. Tous les whiskies.
Tous les whiskies.
Pas simplement les
whiskies. Et votre top 3, votre top 3 des whiskies?
Ah, c'est compliqué. Alors, Edradour. Edradour, parce que c'est la première distillerie que j'ai visitée en Écosse et que c'est un endroit charmant, que c'est très joli. C'est la plus petite distillerie d'Écosse, il me semble. Ouais. Donc, ça, c'est assez sympa à faire. Ensuite, Macallan, parce que j'ai eu la chance d'y goûter et que c'est un peu incontournable, donc il faut passer par là. Et puis, il se trouve, si je dis pas de bêtises, que Macallan, c'est le whisky de James Bond et il se trouve que j'adore James Bond. Donc, voilà, là aussi, c'est quelque chose.
Et la sample, c'est
merci, frappant, merci. Heureusement qu'on est à la radio. Et puis, le troisième, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses et je découvre en ce moment le Japon. Alors, ça fait longtemps que je sais que le Japon fait très bon whisky, mais là, je m'y intéresse d'un peu plus près.
Ils ont été élus meilleur whisky du monde. Hein.
Ouais.
C'est spectaculaire. Ouais. C'est incroyable.
C'est
Allez, on arrive sur votre histoire de copain. 2015, vous avez créé Baguera. Racontez-nous alors.
Alors, Baguera, on nous pose souvent la question pourquoi Baguera. C'est un petit peu un lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Baguera, en fait, c'est le nom de la panthère, enfin, de le panthère dans le livre de la jungle. Et il se trouve que la panthère est un des attributs de Bacchus, qui symbolise sa maîtrise des forces sauvages. Et donc, on trouvait ça très intéressant. On aimait cet aspect félin très fort. La façon dont Baguera est introduit dans le livre de la jungle est magnifique. On dit que c'est un animal puissant. Et on s'est dit, bah voilà, c'est ce qu'on veut être. On veut être assez fort. Et puis, il y a quelque chose de très, très féminin, quelque chose qui nous paraissait intéressant parce que c'est un peu comme ça qu'on peut décrire un vin aussi. Donc, on s'est dit, voilà, tout y est, on va s'appeler Baguera.
Et alors, ce concept de Wine O'Clock, qu'est-ce que c'est?
C'est très simple, c'est des enchères descendantes.
Voilà, descendant, alors comment ça marche? Expliquez-nous.
Généralement, dans une salle de vente
aux enchères inversées.
Exactement. Dans une salle de vente aux enchères, mais maintenant il y a de plus en plus d'enchères sur Internet, les enchères sont incrémentées, elles montent. On enchérit plus que celui qui précède. Là, l'idée, c'est de faire l'inverse. On a un prix de départ qui est au plus haut de la valeur du vin tel que nous l'avons estimé, et puis on a des paliers réguliers. Alors c'est chronométré, donc il faut aller très très vite. Il y a moins de 3 minutes pour enchérir sur un vin. Et on descend de façon régulière, et c'est à la personne qui est intéressée de cliquer au moment où il se dit que c'est la valeur qu'il est prêt à mettre pour ce vin. Là où ça devient très intéressant,
c'est... Il y a un prix de réserve, je suppose, parce que si c'est 2 euros la bouteille de...
Non, effectivement, ça tient dans la fourchette d'estimation, en fait.
Ouais.
Voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a toujours un peu la crainte, c'est le suspense que ça crée, de se dire quelqu'un est prêt à mettre plus cher que moi. Sur des petits paliers d'enchères, c'est particulièrement vrai. Si ça se joue à 200 euros, ça dépend évidemment des vins, ça peut aller très très vite.
Donc, il y a un facteur chance quand même.
C'est la prise de risque. Voilà. C'est jusqu'où on est prêt à mettre. Finalement, c'est des enchères.
Voilà. Et donc là, vous avez réalisé combien de ventes pour l'instant ?
On en est à la deuxième.
Deuxième vente, quoi. Ouais. David Cobold.
Qui a établi la fourchette ? Comment est-ce que vous opérez pour faire la fourchette ?
C'est nous. C'est vraiment. On a Michael Gann, qui est donc le principal fondateur, le fondateur de Bagheera Wines, qui se colle aux estimations. Mais Julie, notre troisième converse, et moi-même,
vous basez sur les effets de marché précédents.
Oui, tout à fait.
Et le sourcing, ça vient d'où alors ? Les bouteilles ?
Ah, c'est tout le mystère de la chose. ça dépend. On a des marchands qui écoulent des stocks. Alors, on a un droit de regard. Hein. On ne prend pas tout et n'importe quoi sur le risque de remplir une vente. On a beaucoup de particuliers. On a des collectionneurs qui des fois, se défont de collections complètes pour pouvoir en commencer d'autres. On a aussi des cas de personnes qui ont trop de vin dans leur cave et qui ont besoin de faire de la place. C'est même assez surprenant, mais ça donne lieu parfois à des relâchés super intéressants.
On réagit un peu sur le principe enchère inversée. David Cobold, vous en pensez quoi ?
J'ai un peu du mal à le concevoir, personnellement. Je suis tellement habitué au système d'enchère où on monte, donc il faut essayer de miser vite. Et là, l'attente, mais pourquoi pas, hein. Il faut essayer pour voir.
Il n'y a pas d'attente, il faut miser vite aussi. Sinon,
le problème, c'est qu'il faut savoir cliquer. Moi, je ne sais pas cliquer. C'est un handicap.
Il y a une partie de chance quand même.
Manuel Perrandet, vous en pensez quoi ?
Je crois qu'il y a une partie de chance, parce qu'il va falloir à un moment estimer, dire je pense que je pourrais l'avoir à ce prix-là, mais après, évidemment, si quelqu'un est plus.
Puis en fonction de ses moyens aussi. C'est là, si vous avez Philippe Lorac.
Alors, ça s'adressera certainement à d'autres clients que ceux qui existent déjà sur la vente aux enchères, qui eux peuvent s'enrichir souvent, beaucoup plus, non ?
Les enchères, ils sortent dans le domaine du vin, sont des gens qui sont très très bien renseignés, qui connaissent vraiment les valeurs des vins, qui font très attention.
Ils ne seront pas en deçà ou au-delà.
Voilà, exactement.
C'est ce qui correspond finalement à l'appel d'offres, quelque part aussi, dans la vie. Et c'est au moins 10 ans. Finalement, qui peut l'emporter.
Merci beaucoup, merci à site internet, peut-être potentiellement une adresse.
Bagheerawines.com.
Merci, Marc. Une dernière pause et ensuite retour chez Nicolas Paris pour parler du Château Suau en Côte de Bordeaux.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas Paris pour cette émission en public avec nouvelle invitée, Monique Bonnet du Château Suau en Côte de Bordeaux. Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors vous êtes située à 35 km de Bordeaux, c'est un domaine familial ?
C'est un domaine qu'on a acheté en 1986.
D'accord.
Donc ça fait déjà quelques années et ça me fait plaisir d'être chez Nicolas parce que c'est un long partenariat. Ça fait 26 ans que nous travaillons ensemble.
26 ans. Alors vous avez 82 hectares au total, dont 66 en vigne.
Oui.
Et quel type de cépage vous avez ?
Alors nous avons les cépages traditionnels bordelais, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon pour le rouge. Et Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sémillon pour le vin blanc.
Et vous produisez donc les trois couleurs ou pas ?
Alors on produit, oui. On produit des vins rouges, des vins rosés, des vins blancs secs, des vins blancs liquoreux.
Alors les liquoreux, parce qu'on n'en parle pas souvent dans l'émission, c'est un tort d'ailleurs. quel type de liquoreux vous produisez ?
Alors nous sommes dans l'appellation Cadillac Côte de Bordeaux pour D'accord. les vins rouges. C'est une nouvelle appellation, ça a changé en 2009, puisque nous étions anciennement Première Côte de Bordeaux, donc nous sommes devenus Cadillac Côte de Bordeaux. Et pour les blancs, depuis 1973, nous bénéficions de l'appellation Cadillac, donc des vins liquoreux qui sont proches des autres vins liquoreux. Hein, nous sommes près des.
Donc sous l'appellation Cadillac, on a forcément des vins liquoreux.
Oui, oui. Du Cadillac blanc, ça n'existe pas.
Comme l'Oupiac.
Exactement.
Voilà, exactement.
Et alors, quel type de gastronomie, parce que toujours un petit peu embêté, qu'est-ce qu'on peut associer à votre excellent Cadillac ?
Alors, tout dépend des millésimes, je vais vous dire.
Les asperges, Manuel, non ?
Oui, ça fonctionne. Oui,
notre blanc, peut aller sur les asperges.
C'est un peu crémé avec le Cadillac, c'est magique. Ouais.
Mais nous avons des sols argilo-graveleux, donc sur les rouges, ça donne des vins quand même assez concentrés. Nous avons ce sont les Cabernet Sauvignon qui chez nous s'expriment le mieux. Et donc des vins qui sont un petit peu austères dans leur jeunesse, mais après quelques années qui s'expriment bien en bouteille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du 2010 que nous avons ici.
Un petit commentaire sur le millésime 2010.
C'est un millésime qui aujourd'hui est très ouvert, après 6 ans de bouteille, en fait. Enfin, élevage plus bouteille. Et c'est un vin rond, fruité, flatteur, très agréable à boire. Ce que nous avons commencé à ce moment-là, enfin en 2008, on a initié une conversion en agriculture biologique.
Bravo.
Donc aujourd'hui, depuis le millésime 2014, tous les vins que nous produisons sont bio. Donc les 66 hectares en bio à Bordeaux, c'est quand même courageux. Et tous les grands ne le font pas. Et du coup, au fil des ans, l'impact de ce changement d'agriculture se fait sentir au niveau du raisin.
Du raisin, bien sûr.
Et bien sûr, au niveau des vinifications.
Parce que
et du
70
vin.
Hectares de vignes, ça fait combien de bouteilles chaque année à vendre ?
450 000.
Et quand même, c'est du boulot, ça, quand même. Hein. Oui. Et vous les vendez en France, à l'étranger, indépendamment de Nicolas, vous les vendez aussi en France, à l'étranger ?
On les vend essentiellement à l'étranger. Ouais. On distribue 80% à l'export, nos vins, aux États-Unis, au Canada. Le Canada est un gros client pour nous aussi. Et puis évidemment la Chine et le Japon.
La Chine, quoi. Vous sentez un engouement dès qu'on dit aux Chinois vin, ils pensent Bordeaux, vraiment ?
Ils pensaient Bordeaux au départ. Mmh. Ça, c'est sûr qu'on a été vraiment les pionniers pour implanter nos vins. Bon, aujourd'hui, les autres viticulteurs y vont, les autres pays y vont.
Bien sûr.
Là, on a la concurrence des vins chiliens, des vins argentins, des vins.
Les leurs aussi.
Oui, il y a les leurs. Parce qu'en fait, ils n'importent que 25% de ce qu'ils consomment. Hein. Le reste, c'est produit sur
Mais
place.
Mais ils sont nombreux.
Et ils sont nombreux, et ça c'est une chance, et leur pouvoir d'achat augmente, donc ça c'est une
si
chance.
Si demain
également.
On passe dans la région, est-ce qu'on peut venir vous voir, vous accueillir
bien
les
sûr.
Gens Vous
Surtout,
êtes aussi souriante qu'à la radio, en vrai.
Ah oui, mais en ce moment on fait de gros travaux de rénovation sur la propriété, et donc nos travaux se terminent fin juin. À partir de juillet, on accueillera avec grand plaisir, tous les visiteurs.
Bon, c'est quoi, tous les jours, enfin 7 sur 7 ou...
Alors, c'est en semaine,
c'est
tous les jours. Le week-end, c'est sur rendez-vous.
Sur rendez-vous, d'accord.
Oui, parce qu'on est situé à Capian. Capian, c'est quand même à côté de Cadillac. Et ce n'est pas vraiment une route très passante. Hein. Il faut venir chercher le château Sio pour venir chez nous. Donc, c'est vrai qu'on aime bien recevoir les gens sur rendez-vous.
Bon, non, c'est parfait.
Donc, il faut suer pour aller à Sio.
Il faut suer pour aller à Sio parce qu'il y a des côtes. Alors,
mais après, on ne sait pas suer.
Ceux qui viennent à vélo, là, c'est sûr.
On est récompensé.
Ils transpirent.
Et donc, un site internet pour prendre enseignement ?
Oui, château Sio, on a un mot.com.
Sio, c'est comment Sio ?
S-U-A-U.
Merci beaucoup, Monique. Il vient de BFM. On retrouve maintenant David Kobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qui nous parle d'un Riesling, mais un Riesling allemand, David. Mais
je vais vous parler de l'Allemagne et des Riesling allemands, ou de plusieurs Riesling allemands. Alors, d'abord, le Riesling, c'est un cépage qu'on connaît en France par l'Alsace. Et l'Alsace a eu la très mauvaise initiative de bloquer la plantation de ce très grand cépage ailleurs en France. D'ailleurs, je jette une pierre dans le jardin de l'INAO. Je ne comprends pas comment on peut accepter...
L'INAO, qu'est-ce que c'est, David ?
L'Institut National des Appellations Contrôlées. Comment peut-on accepter qu'une région, quelle qu'elle soit, s'accapare un cépage, d'autant plus que ce cépage n'est même pas alsacien, il est allemand. Même si l'Alsace, on peut plaider que l'Alsace a fait partie de l'Allemagne un certain temps. Bon, donc ils ont bloqué aussi le Gewürztraminer. Je trouve ça totalement insupportable et inadmissible. Non, passons là-dessus et retournons vers
vous
la source.
Jamais en vacances en Alsace, vous. Hein?
Non, mais j'adore les vins d'Alsace, j'adore cette région. Je ne comprends pas cette mentalité. Il y a d'autres régions qui ont fait pareil. Le Bourgogne a bloqué la Ligotée. Heureusement, parce que personne ne voudrait
vous tenter. Vous n'allez pas vivre à Paris en permanence. Arrêtez de critiquer tout le monde.
Non, je suis un grand fan de Riesling, donc je suis outré par le fait qu'on n'arrive pas à planter le Riesling ailleurs. Alors, l'Allemagne. C'est un pays viticole qui, en gros, fait la taille en superficie du Bordelais. Hein. C'est 105 000 hectares, donc c'est pas énorme. C'est surtout concentré dans le sud-ouest du pays, l'extrême ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué depuis 90. En 90, je crois qu'il y avait 13% de vin rouge. Maintenant, on est proche de 40% de vin rouge sur l'ensemble. Mais parmi les cépages blancs, le Riesling est le cépage roi, même s'il y a beaucoup de Müller-Thurgau, beaucoup de Sylvaner, il y a d'autres cépages. Alors, le Riesling, j'ai exploré un tout petit peu récemment lorsque j'étais au salon professionnel qui s'appelle ProVine à Düsseldorf. Je n'avais pas beaucoup de temps libre parce que j'étais occupé par autre chose, mais j'ai pris quand même 3 heures pour aller goûter dans les deux halls allemands des vins Riesling. Donc, je vais vous raconter ces trois zones viticoles ou ces trois vignerons que j'ai visités. La première est dans la Moselle, la vallée de la Moselle qui est au nord de l'Alsace, donc une région plus froide. Un des vignobles les plus spectaculaires au monde, si jamais vous y allez, c'est une pure merveille. Il y a des pentes verticales et d'ailleurs le vigneron que j'ai visité s'appelle Axel Paulet. Axel a une partie de son vignoble qui est à 80% de pente. C'est à peine imaginable. On tient pas debout.
Il a des gros mollets, monsieur.
Il est bâti comme un troisième ligne rugby, ce garçon.
On s'attache dans la vigne.
Ouais. Mais en revanche, ce qui est le contraste est formidable entre lui, sa morphologie et la délicatesse de ses vins. Parce qu'il fait des Riesling dans le style moderne, c'est-à-dire parfaitement sec. Hein. Il n'est pas dans les Spätlese, Auslese, Trockenbierlein, etc. Il fait des Riesling secs, mais très légers, très délicats, et qui n'ont pas cette odeur que moi, personnellement, je déteste. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, donc tous les goûts sont dans la nature et c'est tant mieux. Ces arômes qu'on qualifie parfois de pétrole, d'hydrocarbures, de paraffine, et qu'on trouve et au fait qu'il y a un fait du soleil. Quand il y a trop de soleil sur les grains de Riesling, ça vire à ça. Moi, je déteste ça. On les trouve en Alsace, on les trouve en Australie, mais je n'aime pas ça. Donc, allez dans la Moselle allemande, vous trouverez des Riesling hyper délicats. Donc, Axel Paulet, Fesseva sont importés en France par une société qui s'appelle Sass Wild Wines, et ça va de 12 euros à 25 euros selon la cuvée, parce que les monoparcellaires sont bien sûr plus chers que les autres.
Avec des degrés d'alcool qui sont souvent
relativement raisonnables. Comme ils sont secs, ils sont plutôt à 11 qu'à 9. C'est 11-12 maxi. Hein. Deuxième étape, après j'ai essayé de changer complètement de région. Donc je suis descendu au sens figuré, mais j'ai changé de hall, dans le Pfalz. Le Pfalz qu'on connaît comme le nom de Palatinat. Faisait partie de l'Empire germanique autrefois. Et là, j'ai goûté une série de vins absolument formidables, en plus qui ont de très belles étiquettes, avec un lien avec notre intervenant Philippe Brenou tout à l'heure, parce qu'il y a une femme très légèrement habillée et un satyre en face. Toutes les étiquettes sont comme ça. Elles sont magnifiques. C'est un domaine historique qui s'appelle Von Bassermann Jordan, Dr. Von Bassermann Jordan. Il paraît que ce vin était adoré par Bismarck. Donc c'est un domaine qui date du XVIe siècle, qui fait 49 hectares, avec aussi des pentes très fortes, ça va de 25 à 50% les pentes. Et là, j'ai pu décliner toute la gamme. On a pu me révéler à quel point le Riesling est sensible au site viticole. Et sur ces différentes hectares, selon si la face était vers le sud, vers le nord, vers l'ouest, vers l'est, on avait des nuances extraordinaires. C'était une espèce de... C'est comme écouter des partitas de Bach avec des variations sur un thème. Enfin, c'était vraiment extraordinaire, cette transparence de ce cépage. Des vins un peu plus puissants, parce que le Pfalz est plus chaude que la Moselle. Et des vins magnifiques. Et là, on décline toute la gamme avec des Spätlese, des Auslese, des Trockenbirnauslese. Donc, Von Bassermann Jordan, malheureusement, ces vins ne sont pas importés en France, mais on peut les commander sur Internet en tapant son nom sur un site, on les commande d'Allemagne.
Vous nous rappelez son nom, David, parce qu'il est...
Dr. Von Bassermann, trait d'union, Jordan.
Bon, maintenant, c'est clair. Alors, hein? Ensuite...
Alors, ensuite, là, c'était un moment de grande émotion dans un restaurant. J'étais invité par un type que j'aime beaucoup, qui s'appelle Willy Klinger, qui est le patron de Wine of Austria, qui est venu nous parler à Lord of Vinexpo.
Exactement.
Un bonhomme super. Et puis, on est allé avec plusieurs amis dîner dans un restaurant. Et à un moment donné, sort une bouteille. On a bu quand même des belles choses. Et sort une bouteille. Ça, c'était grandiose. Alors, ça s'appelle le domaine. Encore un domaine historique, mais qui a changé de main dans les années 70. Reichsgraf von Kesselstadt.
Alors ça, c'est archi clair, là.
Reichsgraf von Kesselstadt. Et la parcelle s'appelle Schwarzopberger. Là, on est encore dans la partie Moselle, mais c'est au fait, c'est le Saar, parce que la région de Moselle, c'est le Moselle, le Saar et le Ruwer, deux affluents de la Moselle, qui, lui, est un affluent du Rhin. Et ce vin, daté de 2006, donc il y avait un peu d'âge. C'était un grand moment d'émotion. Moi, j'ai senti qu'il y avait une espèce de tension, je ne peux pas le décrire autrement, autour de la texture de ce vin qui me faisait presque pleurer, à la fois par plaisir, par douleur. C'était comme une sorte d'orgasme dans la bouche.
C'était longtemps, vous
n'avez
pas eu une telle émotion, David. Hein?
Non, non, mais c'était extraordinaire. Je suis resté bouche bée devant ce vin-là. Non, c'était fabuleux. Et du coup, j'espère seulement une chose, que je rencontrerai une fois de plus dans ma vie ce vin-là.
Merci beaucoup, David Cabold. Fin de ce 593e numéro d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site, le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, restez fidèles à BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations.